Loup. Avec à la une ce projet d'établissement public pour coordonner les secours, la frappe qui ne veut pas des propositions du gouvernement, et enfin on termine avec de la littérature et de la musique. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Lucie, on commence donc par cette nouveauté, la création d'un établissement public pour coordonner les secours.
L'État, les communes et le pays veulent faire évoluer le centre de traitement des alertes des pompiers. Hébergé à côté du SAMU au Taonnet, ce centre a été créé pour centraliser les appels au 18, le numéro d'urgence des pompiers. Et c'est d'abord Harouet et Piré qui avaient choisi de le porter. Rejoint en 2019 par Punaoya et Hitia, les autres communes n'ont pas rejoint le mouvement. Et le CTA pas assez gros pour diluer ses coûts. C'était retrouvé en 2023 au bord de l'implosion, mais d'autres communes se disent aujourd'hui intéressées pour en faire partie. Et il est temps, car aujourd'hui, la prise en charge des alertes reste aléatoire dans beaucoup de casernes municipales et le manque de coordination des services de secours est problématique. Les discussions aujourd'hui avancent avec l'État et le pays sur l'avenir du centre de traitement des alertes. C'est ce que confie la Tavana de Harouet, Teura Iriti.
Oui, nous sommes quatre aujourd'hui. Cette année, deux autres communes donc intégreront. Et d'ici la fin de l'année, on aura un nouveau statut juridique pour cette structure qui sera portée, et j'espère, et je suis même très, très confiante, par les communes de la Polynésie française, le pays et l'État qui vont nous soutenir.
Voilà un nouveau statut. L'État a décidé de ressusciter un texte de 2006, une ordonnance signée à Paris qui prévoit la création d'un établissement public d'incendie et de secours en Polynésie, appelé aussi EPIS. Il devait rassembler toutes les communes, voire même des communautés de communes et le pays. L'EPIS devra conseiller, informer, réaliser des études en matière de sécurité civile, avoir des moyens complémentaires à ceux des communes et bien sûr coordonner les secours et gérer les alertes. Jusqu'à aujourd'hui, les décrets n'avaient jamais été pris par l'État, les communes n'avaient jamais adhéré en masse au projet, mais le vent est en train de tourner. Le Haut-Saria a organisé de nombreuses réunions ces derniers mois. Des études ont été menées. Les communes, notamment celles de la société, sont intéressées, mais à une condition, que l'État et le pays en financent une partie. Si les chiffres manquent encore, des engagements sont pris du côté du ministère de la Santé. On réfléchit même déjà aux locaux de ce futur service du 18 qui doit être installé à côté du 15.
On commence à trouver un petit peu de place. On est en train de réfléchir au niveau du CHPF à rétablir d'autres espaces et il y a des capacités aujourd'hui à pouvoir mettre tous les éléments en un même endroit avec une capacité d'action qui doit être à côté des urgences, parce que n'oublions pas qu'on a un seul service d'urgence et de réa en Polynésie et que quand c'est vraiment vital, on doit être juste à côté. Et donc la gestion du flux plus l'urgence vitale à côté, ça permet aux équipes de se mobiliser, partir une fois que le coup de fil a été passé.
Voilà le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, qui estime que les planètes s'alignent enfin pour la création de cet établissement public d'incendie et de secours. Pas de calendrier encore, mais du côté du CTA, on s'attend tout de même à des annonces et donc des bonnes nouvelles dans le courant de l'année.
Dans l'actualité, on vous donne des nouvelles de la frappe.
Le Conseil supérieur de la fonction publique s'est réuni hier après-midi et comme prévu, ça ne s'est pas bien passé. Parmi les 8 propositions de revalorisation des catégories D qui étaient sur la table, une a été choisie par l'administration et deux des syndicats. Elle consiste à augmenter de 12 points les échelons les plus bas, soit presque 13 000 francs de hausse pour les plus bas salaires. Coût pour la collectivité 250 millions de francs par an, presque deux fois plus que le projet initial de l'exécutif. On écoute la ministre de la fonction publique, Vanina Krolla.
L'idée vraiment est de favoriser les plus faibles salaires. C'est ce qu'on a toujours dit depuis le début. En fait, c'est un complément de ce qui avait été décidé le 23 décembre pour 166 millions. Et là, donc, en fait, on vient maintenir les 5 points minimum pour l'ensemble des agents de catégorie D, sauf que pour les premiers échelons, ils en auront plus, puisque c'est les plus faibles revenus.
Mais pas de quoi satisfaire la frappe et ses alliés. Ils ont voté contre. 12 points n'est pas suffisant. Ils veulent une augmentation de 20 points. Et puis c'est la manière qui n'a pas plu au syndicat de Jean-Paul Ourima. Il estime que les autres syndicats n'avaient pas à être consultés. Il demande à ce que l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique ne soit pas pris en compte.
On attend qu'on soit saisi dans le cadre de négociations, pas dans le cadre d'une réunion du Conseil supérieur. C'était inconcevable que nous, on puisse venir discuter de nos négociations devant des personnels de l'administration et d'autres syndicats. Quoi. C'est la première fois qu'on voit ça. Il n'y a jamais eu de rencontre de ce genre-là. Jamais dans le cadre d'une grève, on a sollicité le Conseil supérieur pour décider de ce qu'adviendra le mouvement social. Quoi.
Voilà, c'était Georges Athéo de la Frappe, et la Frappe qui exige même l'invalidation de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Pour eux, la procédure n'a pas été respectée. La ministre a dit prendre note de cette demande, mais précise que tout projet modifiant les statuts de la fonction publique doit de toute façon obligatoirement passer par ce Conseil, même si l'avis de celui-ci n'est que consultatif. Alors, est-ce que le gouvernement va suivre l'avis rendu hier ou l'invalider comme le demande la Frappe ? Réponse dans une semaine, quand les propositions seront soumises au Conseil des ministres. Mais la Frappe, elle, se tient prête à reprendre sa grève qui avait été suspendue voilà une semaine.
Avis de turbulence chez French Bee.
Et surtout au sein du groupe Dubreuil, propriétaire de la compagnie internationale low cost qui dessert le Fénois, Christine Ourmière-Widener, la directrice depuis un an et demi, a été écartée. On lui reproche sa stratégie et ses résultats en termes opérationnels et financiers. La dirigeante aurait multiplié les embauches coûteuses, annoncé une extension de flotte prématurée, eu des prises de parole qui auraient froid c'est l'actionnaire familial du groupe. Il faut donc s'attendre à de nouvelles orientations stratégiques pour French Bee.
On reste dans les airs. Un incident sur un vol Air Tahiti a posé quelques frayeurs à 57 passagers.
Oui, c'était hier sur le vol 304 qui a décollé à 7h50 de Papeete en direction de Raiatea. Alors que l'appareil était arrivé à destination, le pilote a dû faire plusieurs allers-retours entre Raiatea et Taha à cause d'un problème technique sur le rudder trim de l'avion. Un système qui, selon la compagnie locale, sert à compenser les efforts sur le manche de direction. Un souci sans gravité, toujours d'après Air Tahiti, mais qui nécessite tout de même une intervention technique. Alors après 5 minutes d'attente et d'incertitude dans les airs, la compagnie a dû revenir à l'aéroport de Faa. Plus de peur que de mal, donc, pour les 57 passagers qui sont repartis à bord d'un autre appareil dans la matinée.
Après le succès de l'édition 2024, c'est reparti pour Coach and Talent édition 2025 cette fois.
Et oui, le meneur du groupe Pépena invite de nouveau les passionnés de musique à sauter le pas pour se produire sur une vraie scène. Raymana Barey propose un coaching avant de pousser les artistes devant le public. Et cette année, les participants pourront même répéter dans une salle de la Maison de la Culture et profiter des conseils du chanteur sur la prestance, la voix, le stress, la technique. Ensuite, ce sera la scène. Les soirées sont généralement programmées le premier mardi du mois. Et ce n'est pas un hasard.
C'est pas un hasard parce qu'en fait, justement, on veut inviter les familles à sortir, leur donner aussi la possibilité d'avoir un lieu pour prendre du plaisir avec leurs enfants. Même en couple, peu importe finalement, c'est d'avoir une petite activité en début de semaine. Ce qui manque énormément finalement ici, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire de pouvoir se libérer sainement avec des musiques variées. On est là pour accompagner aussi les artistes et non pas pour exiger de l'artiste qu'il soit complètement performant.
Et pour Aymana, qui souhaiterait réussir à pérenniser cette opération, il s'agit d'un projet sur lequel tout le monde y trouve son compte.
C'est un microcosme qui convient à tout le monde. C'est-à-dire les restaurateurs, ils n'ont pas forcément d'activité en début de semaine parce que toute l'activité est centrée sur le week-end. Là, nous avons une petite activité qui va faire entrer aussi du revenu, mais permettre de pouvoir équilibrer les choses. Ils vont louer la sono, ils vont payer les coachings pour les candidats qui se présentent. Et en contrepartie, ils ont un petit peu de monde. Au lieu d'avoir personne, au moins, ils ont des familles qui sont là pour se tenir et tout ça. Donc, il y a un équilibre qui se fait dans tout ça. Il y a tout qui est lié. Il y a la culture, il y a le privé et puis il y a aussi l'individu. C'est incroyable.
L'année dernière, plus d'une soixantaine de chanteurs et musiciens sont passés sur scène sous les yeux de Raymana. Il y a eu de belles surprises et même des tubes qui ont tourné en boucle sur les radios. Pour cette année, les inscriptions sont ouvertes. Avis aux amateurs ou professionnels de la scène, que ce soit de la danse, de la musique ou même les DJ, tous les artistes sont invités à se tester sur ces scènes ouvertes. Et pour s'inscrire, rendez-vous sur la page Harmonie de Tahiti ou en MP sur la page officielle du groupe Pépena.
Et on termine avec cette nouveauté littéraire chez Auvent des Îles. On nous amène à Montmartre.
Oui, c'est une destination plutôt exotique pour la maison d'édition de Tahiti et du Pacifique, mais il s'agit pour Auvent des Îles de suivre un de ses auteurs, Franck Chanloux, qu'on avait entendu sur cette antenne en 2021 à l'occasion de la publication de son premier roman Les Enchaînés, une aventure qui suivait des envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie, leur rencontre avec des communards puis leur évasion. Changement de décor cette fois, mais pas d'époque, donc dans l'arène des Apaches qui nous emmène dans un Paris à feu et à sang, à la fin du 19e siècle. Les Apaches, ce sont ces bandes de voyous souvent très jeunes et qui, pour beaucoup, ont grandi dans la rue, qui faisaient régner leur loi dans de nombreux quartiers de l'époque, dont la butte Montmartre au centre de ce roman. Qu'importe cet ancrage métropolitain, Christian Robert, le fondateur des éditions Auvent des Îles, a voulu suivre son auteur pour sa plume, son amour de la langue des argots, en l'occurrence le Parigot, et surtout sa galerie de personnages très fouillés. Écoutez.
Oui, ça fait partie partie des qualités d'écrivain de Franck, c'est d'abord le rythme de ses romans et la force qu'il donne au caractère à ses personnages, toujours avec beaucoup d'empathie, et il en fait des personnages auxquels tout le monde s'attache. Là, en l'occurrence, ils sont extrêmement violents, hein, c'est des voyous qui, pour la plupart, sont très jeunes et qui vivent de larcins, voire même de meurtres. Et pourtant, ils sont tous pleins d'humanité. Et ouais, il a cette qualité d'arriver à donner de la vie et du fond à ses caractères.
Christian Robert qui sait aussi qu'entre Montmartre et le Pacifique, il n'y a qu'un pas. Un pas que Franck Chanlou et ses Apaches font à la toute fin de ce nouveau roman. Et tant pis pour le spoiler, les Évadés et la Reine des Apaches font partie d'une même trilogie. Et le troisième tome reliera ces deux histoires pourtant si éloignées.
Le héros principal du premier, c'est Victor, qui est donc c'est ce garçon qui se trouve au bagne et qui s'évade. Ils sont deux, il y a Mathilde et Alexandre qui sont ensemble. Et lui est un personnage qu'on sent en devenir. Et dans le troisième tome, ils se retrouveront tous les deux en Nouvelle-Calédonie, et du reste la Reine des Apaches termine sur le bateau qui emmène Alexandre et Mathilde en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, to be continued comme on dit dans les films. En attendant, vous pourrez d'ores et déjà retrouver La Reine des Apaches de Franck Chanlou en librairie. Les premiers retours de lecteurs sont excellents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie, on passe à la météo maintenant sur Radio.